Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième jour du programme pour mettre 25 heures de côté pour soi et pour faire ce que vous avez envie. Aujourd'hui, on va parler de confier ses enfants pour avoir au moins 4 happy hours d'affilée. C'est très important. Alors, je ne connais pas votre situation. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des parents solo ou peut-être que vous êtes deux parents à la maison. Votre conjoint peut être présent ou plutôt absent si vous avez un conjoint. Vous pouvez avoir de la famille ou des amis à proximité ou alors pas du tout. Vous pratiquez peut-être l'instruction à la maison ou alors vos enfants sont scolarisés. Peut-être que vous avez peu de moyens financiers ou au contraire que vous êtes à l'aise dans vos finances. Peut-être que vous êtes à la maison, H24 ou quasiment H24, ou alors que vous travaillez à l'extérieur. Voilà, il y a vraiment plein de situations différentes. En revanche, je suis sûre de 3 choses. La première, c'est que personne ne sait plus que vous l'importance d'avoir 4 heures d'affilée pour vous. Donc si vous les voulez, ça doit être un objectif concret. Et si vous voulez que cet objectif, enfin si vous souhaitez, si vous désirez cet objectif, c'est-à-dire avoir 4 heures d'affilée, alors vous le pourrez. La deuxième chose, c'est un principe de base, demandez et vous recevrez. N'attendez pas que quelqu'un vous propose de garder vos enfants, vous risquez d'attendre assez longtemps. Donc demandez. Et vous allez voir que vous trouverez. Je vous aiderai évidemment à demander de la bonne façon et puis surtout à qui. Et enfin, la troisième chose, le troisième point dont je suis sûre, c'est qu'il y a une solution pour chaque situation. Je vais vous présenter toutes les situations et toutes les solutions que j'entrevois et la vôtre se cache sûrement parmi toutes ces propositions. Donc si vous êtes d'accord, je vais détailler chacun de ces 3 principes et vous allez voir beaucoup plus clair. Donc reprenons le premier principe. Confier ses enfants 4 heures d'affilée doit être un véritable objectif. Pourquoi ? Tout simplement parce que grappiller quelques minutes ou quelques heures par-ci par-là, c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant pour faire une activité longue. Et on a besoin des deux, on a besoin des petits moments pour soi, comme des grands. La deuxième raison, c'est si on est à la maison non-stop, si vous travaillez de chez vous ou si vous ne travaillez pas sur un projet professionnel, mais vous avez fait le choix d'être parent au foyer, alors il est vital d'avoir des vrais moments pour vous, où vous avez l'esprit tranquille plusieurs heures d'affilée. Les enfants sont en sécurité dans ces moments-là, vous n'avez pas à vérifier, parce que quand on est à la maison, même si on peut avoir quelques heures pour soi et que les enfants sont à côté, on va sans cesse avoir l'esprit pris pour aller vérifier que tout se passe bien, pour être sûr qu'il n'y a pas de dispute, etc. Donc là, les enfants sont en sécurité, vous n'avez pas à vérifier, vous n'avez pas à être interrompu et vous savez que tout se passe bien. Et ça, c'est super important pour avoir l'esprit tranquille pendant plusieurs heures d'affilée. Troisième raison, si vos enfants sont 24 heures sur 24 avec vous, c'est super qu'ils passent aussi des moments avec d'autres adultes, d'autres personnes. Ils vont pouvoir faire d'autres activités, d'autres jeux, ils vont pouvoir passer des bons moments autrement et vous aussi. Donc ça aussi, ça a son importance. Et la quatrième raison, c'est que d'avoir au moins 4 heures d'affilée chaque semaine, ça ouvre le champ des possibles. On peut vraiment consacrer ce temps à quelque chose de précis chaque semaine. D'ailleurs, vous allez voir, ça va vite devenir un rendez-vous assez important et incontournable pour vous. Alors j'aimerais revenir sur les blocages. Qu'est-ce qui vous empêche de fixer ça comme un véritable objectif, d'avoir 4 heures d'affilée? Souvent les blocages, ils viennent de nous, pas des autres. Et voici ceux que j'ai pu résumer. Le premier blocage, c'est le regard des autres. On entend souvent tu fais garder tes enfants alors que tu es à la maison et que tu ne travailles pas à l'extérieur, ou alors des phrases du style tu prends du bon temps alors que tu es au chômage, ou encore tu ferais mieux de chercher un travail, un vrai travail, au lieu de perdre ton temps à des trucs qui ne servent à rien. Ce sont juste quelques exemples, mais les regards des autres pèsent vraiment très très lourd sur nos épaules et parfois ça nous empêche de faire les bons choix parce qu'on va se contenter de faire ce qui va être agréable aux yeux des autres et pas à nos yeux. Et les gens, les autres ne savent pas forcément toute notre situation, ils ne nous connaissent pas et ils peuvent pas connaître nos besoins et ce dont on a vraiment, ce qui est vraiment nécessaire et vital pour nous. Donc le regard des autres, c'est vraiment un premier blocage. Le deuxième, c'est la culpabilité. C'est directement lié au regard des autres, à l'image que l'on a de soi-même et aussi à notre vécu. Alors j'aimerais vraiment que vous compreniez que vous n'êtes ni une mauvaise mère, ni un mauvais père si vous faites garder vos enfants 4 heures par semaine d'affilée. Même si vous êtes au chômage et que vous êtes tout le temps à la maison, même si vous êtes parent au foyer et que ça a été un choix, vous n'êtes pas un mauvais parent si vous décidez de faire garder vos enfants plusieurs heures par semaine d'affilée. Et si vous travaillez à l'extérieur et que vos enfants font l'école, sont à l'école la journée, passer une demi-journée seule en plus le week-end, je sais que ça réduit votre temps de présence avec vos enfants. Donc c'est vrai que ça peut paraître ça peut paraître délicat de se dire bah je vois pas mes enfants de la semaine, enfin je les vois le matin et le soir, et puis en plus de ça les deux jours où je pourrais passer un peu de temps avec eux, je me prends une demi-journée pour moi. Ça peut paraître difficile, délicat, mais rien ne vous empêche de le faire toutes les semaines à ce moment-là. Si vous travaillez à l'extérieur et que vos enfants sont à l'école toute la semaine, vous pouvez très bien consacrer une demi-journée une fois par mois par exemple. Tout est aménageable. Donc trouvez des solutions qui vous ôtent cette culpabilité des épaules. Le troisième blocage, c'est de croire que ce n'est pas si important. On peut se dire « Ah, je verrai la semaine prochaine, il y a mon fils qui est malade » ou alors « Je prendrai plus de temps pour moi ce soir », etc. Et puis en fait, on peut toujours trouver plein de bonnes raisons, plein de bonnes excuses pour repousser ce temps pour soi, se dire que ce n'est pas la priorité, pas maintenant, on verra plus tard et tout ça. Mais si vous croyez que ces quelques heures d'affilée chaque semaine sont vraiment importantes, alors il faut que ce genre de pensée reste au stade de pensée. C'est normal d'avoir ce genre de pensée, on les a toutes, mais toutes et tous, pardon, je ne veux pas exclure les papas, mais il faut que ça reste au stade de pensée, il ne faut pas que ça vous empêche de prendre ce temps qui est important. Un autre blocage, c'est le manque de confiance. Par exemple, on peut se dire que tel adulte, est-ce qu'il va vraiment savoir comment lui changer sa couche? Est-ce qu'elle va penser à l'amener à l'heure à son cours de piano? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors c'est évident, ce ne sera pas fait comme vous, ce ne sera peut-être pas anticipé toujours de la même manière que vous, des fois il y aura peut-être des couacs, mais ce n'est pas grave. Tant que la personne en charge des enfants est digne de confiance au niveau de leur sécurité, le reste ça va aller tout seul avec quelques, j'aurais dit bien quelques consignes simples, quelques petits loupés, quelques petits ratages, ce n'est pas grave. Nous aussi on en a fait des ratés, des loupés, on en fait encore. Donc voilà, il faut gagner en confiance en d'autres personnes. Et puis un autre blocage, ben c'est l'impossibilité de faire garder les enfants, soit parce qu'on n'a personne à qui demander dans notre entourage, par exemple. Pas de famille, pas d'amis proches. On peut être dans une ville où on connaît très peu de personnes et puis on n'ose pas demander aux quelques contacts qu'on a, etc. Donc je pense que ça, je vais le détailler plus tard, mais je pense que vous pourrez trouver des solutions dans la troisième partie de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors comment faire maintenant? Comment faire pour que confier ces enfants au moins 4 heures d'affilée soit un véritable objectif? Et bien je vais vous parler du tableau de motivation. Je vais vous proposer de faire la liste de toutes les choses que vous avez envie de faire dans l'idéal. Là vraiment l'objectif c'est de vous lâcher, vous avez le droit de rêver, de laisser place à l'utopie, comme si vous aviez tout votre temps pour vous, tout l'argent du monde, voilà, aucune limite. Vous faites la liste de toutes les choses que vous aimeriez vraiment faire. Maintenant, vous allez faire un tableau à 3 colonnes avec ces choses-là, d'accord? Donc si vous le voulez, vous pouvez mettre sur pause la vidéo ou le podcast maintenant et vous pouvez faire cette liste de toutes les choses que vous aimeriez faire. Voilà, maintenant que ça c'est fait, vous allez faire un tableau à 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre le nom de l'action que vous aimeriez faire. Je sais pas, que ce soit une passion, que ce soit au niveau du travail, que ce soit n'importe quoi que vous avez à cœur, une activité sportive, etc. Vous mettez tout ça dans cette première colonne. Dans la deuxième colonne, vous allez indiquer la durée que vous aimeriez ou que vous pourriez y consacrer chaque semaine. Donc, première colonne, l'action, la liste des choses que vous aimeriez faire. Deuxième colonne, la durée que cela impliquerait pour vous chaque semaine. Troisième colonne, vous allez indiquer le coût de cette activité. Vous avez maintenant un tableau qui va être complet de tous vos rêves avec le temps et le coût que chaque activité vous demanderait chaque semaine. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment dans l'idéal, la situation idéale, si vous aviez tout le temps que vous vous rêveriez d'avoir et si vous aviez tout l'argent que vous voulez. Maintenant, la troisième étape, donc une fois que vous avez fait ce tableau, c'est le retour à la réalité. Vous allez maintenant entourer toutes les activités qui sont réalisables maintenant. Celles qui sont réalisables d'un point de vue temps par semaine, parce que peut-être qu'il y a des activités, ça vous demanderait beaucoup trop de temps et vous ne l'avez pas encore actuellement. Mais voilà, vous allez entourer les activités qui sont possibles au niveau du temps et celles qui sont possibles au niveau de vos finances. Je ne vais pas vous donner une liste pour vous donner plein d'idées, ça c'est à vous d'être imaginatif, imaginative. En revanche, voici quelques exemples, juste quelques exemples de mes rêves à moi, d'une liste que j'aurais pu faire. Par exemple, me vernir les ongles des mains au moins une fois tous les 15 jours. Je sais que ça me prend à peu près 30 minutes et c'est gratuit à part l'achat du vernis de temps en temps. Deuxième action, faire un podcast par jour du lundi au vendredi. Ça me prend à peu près 45 minutes par jour et c'est gratuit parce que j'ai déjà l'équipement. Mais si j'avais pas l'équipement, moi j'aurais pu mettre le coût que ça me coûterait d'acheter un dictaphone et puis un micro, etc., un micro-cravate et tout ça. Troisième objectif, travailler sur ma prochaine formation. Le temps estimé, à peu près 40 heures à répartir. Ça, c'est aussi gratuit car j'ai l'équipement, mais par contre, ça va me demander énormément d'heures. Un autre objectif que j'aurais aimé faire, ce serait faire des cours de comédie musicale. Je m'étais renseignée, c'était 2 heures par semaine, c'était 200 euros par trimestre. C'est impossible pour l'instant pour moi, parce que j'ai pas les finances. Et du coup, je n'entoure pas ce rêve, pour le moment en tout cas. Tu vois, ça c'est, vous voyez, ça c'est juste un exemple de ce qui est réalisable, ce qui n'est pas réalisable. Mais au moins, je sais exactement quelles sont les choses que je peux mettre en place tout de suite. Et maintenant, je dispatche les activités que j'ai entourées sur la semaine. Et c'est la quatrième étape que je vous encourage à faire avec ce tableau de motivation. C'est maintenant que vous commencez à voir quelles happy hours vous arrivez à mettre de côté chaque jour et chaque semaine, vous allez remplir votre agenda avec des petits bouts de vos rêves. C'est comme ça qu'on passe du rêve à la réalité. C'est comme ça que ces happy hours resteront happy, resteront joyeuses et qu'elles ne seront pas bouffées par d'autres activités non prévues. Parce que c'est bien connu, la nature a horreur du vide, je vous l'ai déjà dit. Et en ayant fait ce tableau de motivation, vous réalisez qu'il y a des projets qui demandent beaucoup plus de temps que d'autres. Ce sont les projets parfaits pour vos 4 heures hebdomadaires. Et voilà, vous avez désormais votre objectif. Vous savez désormais que vous avez besoin de ces 4 heures d'affilée chaque semaine. Par exemple, pour vous entraîner au piano, à la natation, au scrapbooking, je sais pas, peu importe, mais voilà, une activité de ce style-là. Ça peut être quatre heures d'affilée chaque semaine pour créer, parce que vous êtes artiste et que vous avez besoin de temps pour faire une peinture, pour créer une nouvelle mélodie, je sais pas, voilà, ce genre de choses. Ça peut être 4 heures d'affilée pour travailler sur votre livre, sur votre formation, sur un projet professionnel, un projet pédagogique, quelque chose sur lequel vous avez besoin de vous concentrer un certain bout de temps. Et voilà, le temps de vous mettre dans l'activité, il faut du temps, donc vous avez besoin d'au moins 4 heures d'affilée. Ça peut être de donner des cours à domicile, de faire du coaching, de donner des cours privés. Ça peut être de vous former, de suivre un cours, de participer à un MOOC, etc. Bref, vous devez avoir vraiment envie de ces 4 heures maintenant. 4 heures ou plus, si vous le pouvez. Et comme vous en avez envie, normalement, en tout cas à la fin d'avoir fait ce tableau de motivation, vous en avez envie, ça va devenir un objectif. Et cette première étape est accomplie. Maintenant, il va falloir passer à l'action et du coup, demander. Demandez à faire garder vos enfants et trouver une solution qui est envisageable pour vous. Alors, du coup, c'est le deuxième principe que je vous ai introduit dans cette introduction, c'était demander et vous recevrez. Alors, demandez quoi ? Eh bien, vous allez demander à quelqu'un de garder vos enfants. Et votre demande, elle doit être précise. Elle doit contenir quand, la durée, où, la fréquence et pourquoi. Alors quand, ça veut dire par exemple le mercredi après-midi, ou le samedi matin, ou le lundi matin. Voilà, la demande elle doit être précise. Il faut qu'il y ait un jour en particulier, un jour fixe, une période dans la semaine qui vous arrange et qui arrange la personne qui va garder vos enfants. Donc ça, on va le voir après. Mais voilà, il faut que la demande soit précise par rapport à la date, par rapport au jour dans la semaine. La durée aussi, de telle heure à telle heure. Est-ce que c'est le matin de 9h à midi ? Est-ce que c'est de 9h à 14h ? Est-ce que c'est plutôt l'après-midi à partir de la sieste ? Donc on va dire 13h, 13h30 jusqu'à 18h par exemple. Voilà. De quelle heure à quelle heure ? Ensuite, où ? Est-ce que c'est chez vous ou est-ce que c'est chez la personne qui garde ? Ensuite, la fréquence. Vous pouvez demander à la même personne chaque semaine au même moment, mais vous pouvez aussi demander à plusieurs personnes différentes et du coup vous alternez en faisant un roulement, par exemple tous les 15 jours chez un tel ou alors une fois par mois, et si vous avez 3 ou 4 ressources, et bien chaque fois c'est différent. Et surtout, pourquoi ? Alors là, j'aimerais vous dire qu'il a été prouvé que pour une même demande, si on donne l'explication, même si cette explication est évidente, on a plus de réponses positives. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une expérience qui a été réalisée dans une entreprise où il y avait une photocopieuse. Et dans cette salle où il y avait la photocopieuse, parce que c'était une grande entreprise, il y avait toujours une grande file d'attente. Il y a un comédien qui a été mandaté pour faire des tests auprès des personnes de la file d'attente, qui, elles, étaient des vraies personnes qui venaient faire des photocopies. Donc ce comédien, il devait arriver et demander à passer devant tout le monde pour faire ses photocopies. quand il arrivait, il devait demander à dire, bah voilà, je dois faire mes photocopieuses, est-ce que vous pouvez me laisser passer? Donc, pour ça, il avait trois répliques différentes. Donc, à chaque fois, il a testé ses trois répliques plusieurs fois. Et du coup, après, on a fait une moyenne avec. La première fois, il demandait, j'ai des photocopies à faire, est-ce que je peux passer devant vous? Tout simple. Ce qui paraît évident, hein. Si on veut passer devant quelqu'un, c'est qu'on a des photocopies à faire puisque c'était une photocopieuse. La deuxième fois, la deuxième réplique qu'il avait, c'était « J'ai des photocopies à faire, est-ce que je peux passer devant vous parce que je suis pressée ?» Donc là, la raison c'est « Je suis pressée, s'il vous plaît, laissez-moi passer. » D'accord ? Et la troisième réplique c'était « J'ai des photocopies à faire, est-ce que je peux passer devant vous parce que j'ai des photocopies à faire ?» Donc là, c'est vraiment la réplique la plus débile, si on veut dire, parce que j'ai des photocopies à faire, est-ce que je peux passer parce que j'ai des photocopies à faire? Enfin, je veux dire, c'est l'évidence même. Eh bien, les résultats de cette expérience sont vraiment intéressants. Déjà, les gens ont beaucoup plus accepté de laisser le comédien passer devant eux dans le cas numéro 2 et le cas numéro 3. Pourquoi? Donc, le cas numéro 2, c'est quand il disait « J'ai des photocopies à faire, est-ce que je peux passer devant vous parce que je suis pressé ?» Et le cas numéro 3, « J'ai des photocopies à faire, est-ce que je peux passer devant vous parce que j'ai des photocopies à faire ?» Donc, quand il donnait une raison, il y avait beaucoup plus de réponses favorables. Tout simplement parce qu'on est plus enclin à accepter la demande de quelqu'un quand elle est argumentée. Donc, quand il donnait un argument, le fait qu'il dise « parce que », parce que je suis pressée ou parce que j'ai des photocopies à faire, eh ben les gens, ils laissaient plus volontiers le comédien passer devant eux. Il se trouve que dans l'expérience, il y avait autant de réponses positives à la demande numéro 3 qu'à la numéro 2. Donc, les gens ont autant répondu « oui, allez-y monsieur, passez devant moi » quand on leur donnait une réponse valable qu'une réponse non valable, c'est-à-dire une excuse valable qu'une excuse non valable. C'est-à-dire, quand on leur disait « parce que je suis pressé », ils laissaient passer, et quand on leur disait « parce que je veux faire des photocopies », qui est une raison absolument pas valable, parce qu'elle est, juste évidente et que tout le monde veut passer devant les autres pour faire parce qu'ils ont des photocopies à faire, et bien pourtant, il y avait le même taux de réponse favorable. Et du coup, pourtant la raison être pressée, comme je vous dis, elle est beaucoup plus valable que la raison parce que j'ai des photocopies à faire. Mais la deuxième conclusion de cette expérience, c'est que lorsque ça ne coûte pas grand chose à la personne, elle est prête à accepter notre demande même si on donne une raison évidente ou même bidon. À partir du moment où ça ne demande pas beaucoup d'investissement à la personne, pas beaucoup d'engagement de sa part. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est une méthode magique pour obtenir tout ce qu'on veut, puisque comme je vous l'ai dit, ça a été prouvé que c'est quand on demande un engagement très petit à la personne. Laisser passer quelqu'un devant soi, ça ne nous demande ni beaucoup d'argent, ni beaucoup de temps, ni un grand geste, une grosse action, ni beaucoup d'énergie. Donc voilà, en ce sens, ce n'est pas une méthode magique. Mais par contre, dans le cas d'une demande pour faire garder ses enfants, on n'est évidemment pas dans ce genre de situation, dans le sens où ça va demander de la disponibilité, du temps, de l'attention, de l'énergie à la personne qui va les garder. D'où l'importance de donner une bonne raison et donc d'avoir un objectif clair. Donc lorsque vous demandez, plus la demande est précise, plus la personne en face va comprendre que c'est important pour vous et elle va prendre en compte cette demande, elle va avoir envie de vous aider. Et plus la demande est précise, plus vous savez à l'avance, vous, pour vous, les happy hours que vous mettez de côté pour réaliser votre objectif. Alors du coup, à qui vous allez faire cette demande? Voici une liste des personnes qui peuvent vous aider et garder vos enfants. Pour l'instant, je m'en tiens à une liste sans détailler parce que juste après, je vous soumettrai des solutions précises pour chacun des cas. Donc vous pouvez faire garder votre enfant à votre enfant lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que votre enfant est assez grand et autonome pour se garder tout seul ou en tout cas vous pensez que c'est le moment d'essayer. Comme je vous l'ai dit, je détaillerai ça après. Vous pouvez confier votre enfant à l'aîné de la fratrie. Vous pouvez confier votre enfant à l'autre parent de votre enfant. Vous pouvez le confier à vos parents, à vos beaux-parents, donc aux grands-parents, à votre sœur, à votre frère, à votre belle-sœur, à votre beau-frère, donc les tontons, les tatis. Vous pouvez le confier à une amie, à une autre amie, à un autre ami, donc à plusieurs amis, à des collègues de travail, à un voisin, une voisine. Vous pouvez les confier aux parents d'un ami de votre enfant, vous pouvez les confier à une nounou, à une babysitter et même à une jeune fille au pair. Donc maintenant, je vous invite à reprendre cette liste et à barrer toutes les mentions qui sont impossibles. Vous allez reprendre la liste, la noter et vous allez barrer toutes les mentions qui sont impossibles, soit parce que ces personnes n'existent pas, Par exemple, je sais pas, moi, vous n'avez pas de grands-parents, parce que les grands-parents sont décédés, par exemple. Soit parce qu'elles ne sont pas à proximité. Par exemple, vous n'avez pas de tonton, tati à proximité, ils habitent loin. Donc, du coup, c'est une solution qui n'est pas envisageable. Évidemment, si vous avez qu'une seule sœur et qu'elle habite à 6 heures de route, c'est pas tellement possible. Ou enfin, vous pouvez barrer aussi parce que les relations sont très compliquées. Je ne sais pas si justement vous avez un beau-frère ou une belle-sœur et que les relations sont plutôt tendues. C'est pas à ces personnes que vous avez demandé de garder vos enfants parce que les relations sont pas au beau fixe. Donc, il faut pas non plus... il faut être sage dans ses choix. Donc voilà, vous barrez toutes les mentions qui sont impossibles. Pour le moment, vous barrez pas les autres. C'est-à-dire que vous ne supprimez pas les possibilités, les personnes dont vous êtes sûr que c'est non. Vous ne supprimez, que les personnes dont vous êtes sûr que c'est non. Vous ne barrez pas les autres. Si vous avez un doute, vous laissez et vous y verrez plus clair après quand je vais détailler le prochain paragraphe. Ensuite, vous notez le prénom de chaque personne non barrée. Donc, si vous n'avez pas barré babysitter, par exemple, mais que vous n'en connaissez pas, vous laissez blanc, et on y reviendra plus tard. Vous notez le prénom de chaque personne non barrée, et ensuite, vous demandez à chaque personne dont vous avez le prénom, et que vous n'avez pas barré, si elle accepterait de garder vos enfants, occasionnellement ou de manière régulière. N'oubliez pas, la demande doit être précise. Par exemple, est-ce que tu pourrais garder Janae le mercredi après-midi entre 13h et 18h, parce que je dois travailler sur ma prochaine formation qui doit être disponible d'ici début novembre. Donc voilà, pour les étapes simples. 1. Vous barrez toutes les mentions qui sont impossibles dans la liste des personnes qui pourraient garder votre enfant. 2. Vous notez le prénom de chaque personne non barrée. 3. Vous demandez à chaque personne dont vous avez le prénom. Une demande claire, précise. Et si vous avez besoin de revenir sur cette demande, reprenez les éléments que je vous ai décrits plus haut. Quand, la durée, où, la fréquence et... pourquoi ? Voilà pour les étapes simples. Donc, dans le prochain paragraphe, je vais vous présenter diverses solutions à diverses problématiques, parce qu'évidemment, dans la vie, tout n'est pas toujours aussi simple, hein, c'est pas binaire. Mais comme on a un objectif et de la niaque, on va pas renoncer à nos 4 happy hours au premier obstacle. Donc, maintenant, je vais détailler avec vous le troisième point important que je vous ai dit, le troisième fait, la troisième règle. Que je vous ai dite dans l'introduction, il y a une solution à chaque situation. Donc, vous avez désormais votre liste de personnes à qui demander le service de garder vos enfants, votre enfant, et je vais reprendre chacune de ces personnes et vous donner des pistes concrètes pour que cette option se transforme en véritable solution pour vous. Alors, on reprend d'abord votre enfant lui-même. Je vous renvoie hier sur tout ce que j'ai dit par rapport à l'autonomie. Eh bien, l'autonomie, c'est aussi faire confiance à l'enfant pour se garder lui-même. Alors, je ne vais pas vous donner un âge à partir duquel un enfant peut rester quelques heures seul, tout simplement parce que c'est vraiment pas l'âge qui compte, mais la maturité de l'enfant, son sentiment de sécurité et sa capacité à être autonome. Mais voici 3 éléments très importants qui peuvent vous montrer que votre enfant peut se garder tout seul. Il pourrait commencer à rester seul chez lui, chez vous, à partir du moment où, premièrement, il n'a pas peur d'être tout seul chez vous. C'est important qu'il se sente en sécurité. Deuxièmement, parce qu'il est assez mature pour ne pas faire des choses risquées en votre absence. Par exemple, il n'aura pas l'idée de jouer au foot dans l'appartement, ni d'escalader la fenêtre, ni d'allumer le feu, le gaz, et de laisser la casserole comme ça, avec le gaz ouvert. Enfin, voilà. Il doit être assez mature pour ne pas faire de choses risquées. Et le troisième élément, c'est qu'il est capable de respecter vos règles en votre absence. Par exemple, selon son âge, ne pas cuisiner seul. On ne va pas laisser un enfant de 9 ans cuisiner seul, par exemple. Ne pas ouvrir la porte si quelqu'un sonne. Ne pas répondre au téléphone, sauf si c'est moi qui appelle. Ne pas toucher le gâteau dans le frigo qui est le dessert de ce soir parce qu'on a des invités, etc. Ça peut être des règles de sécurité, mais des règles juste de savoir-vivre ou des règles pour garder l'appartement ordonné, etc. Donc, 1. Il n'a pas peur d'être seul chez vous. 2. Il est assez mature pour pas faire des choses risquées en votre absence. Et 3. Il est capable de respecter vos règles en votre absence. Ce sont pour moi les 3 critères les plus importants. Ensuite, on va commencer petit. Par exemple, on va s'absenter 5 minutes pour aller mettre les poubelles dehors et on voit comment l'enfant réagit. On peut ensuite augmenter la durée si ça s'est bien passé, avec par exemple 15 minutes pour aller apporter un livre chez la voisine. Ensuite, on va tester pendant une heure pendant que je vais faire les courses. Je vais laisser mon enfant une heure tout seul et puis on va voir, etc. Alors, comment procéder? Première étape, je préviens l'enfant. Je le préviens que j'ai quelque chose à faire, je lui dis exactement quoi. Et je lui demande s'il se sent de rester seul. Si c'est OK, alors je passe au point suivant. Sinon, ben, soit je prends l'enfant avec moi, soit je le confie à quelqu'un. Mais ce n'est pas la peine d'aller tester quelque chose et que ça se passe mal. D'accord? Donc déjà, on prévient l'enfant et on lui demande s'il se sent de rester seul. Donc comme je l'ai dit, d'abord c'est pour des petites durées, ensuite on augmente la durée. Deuxième étape, s'il se sent de rester seul, je lui donne une durée précise. Il faut absolument que je sois rentrée avant l'heure indiquée. Si l'enfant ne sait pas encore lire l'heure, je lui mets un chronomètre ou une minuterie. Si je dis que je m'absente 5 minutes pour aller mettre les poubelles en bas et que j'ai à traverser juste la route pour aller mettre mes bouteilles de verre dans la poubelle de verre qui est en face et que ça me prend 5 minutes, eh bien, je lui mets le minuteur par exemple. C'est très important, de rentrer avant l'heure que j'ai définie, au plus tard à l'heure que j'ai définie, parce que la confiance de l'enfant en son parent est en jeu. Et son sentiment de sécurité va en découler. Donc quand on dit qu'on s'absente 5 minutes, on ne s'absente pas 8 minutes. Pour l'enfant, ça peut être source d'angoisse et du coup, il va pouvoir se passer peut-être plusieurs mois avant de pouvoir réitérer l'expérience. Donc je lui donne une durée précise. 3, je lui dis ce qu'il peut faire. Je peux lui donner plein d'idées pour s'occuper. Par exemple, faire un puzzle, ranger sa chambre et la nettoyer. Il a le droit de regarder un film qu'on a décidé ensemble. Il a le droit de faire tel exercice, de faire tel cahier d'activité, etc. Ensuite, je lui dis ce qu'il ne peut pas faire. Et j'insiste vraiment sur le fait que sa confiance dépend du fait que je respecte mon engagement à rentrer avant telle heure et que ma confiance en lui dépend du fait qu'il respecte ses règles. Donc, moi, je lui fais confiance parce que je sais qu'il va respecter ses règles et lui, il me fait confiance parce qu'il sait que je vais rentrer à l'heure que j'ai dite. Donc, certaines règles sont pour sa sécurité, mais d'autres, c'est simplement pour la bonne gestion de son temps, de l'environnement dans lequel il va rester seul. Par exemple, si je lui demande de ne pas sortir, c'est pour sa sécurité. Mais si je lui demande de ne pas se déguiser avec mes vêtements, c'est parce que j'ai pas envie qu'il abîme ou qu'elle abîme mes vêtements en mon absence, ni de trouver toute ma chambre sans dessus dessous à mon retour. Donc, chaque chose interdite doit avoir une explication. Si l'enfant sait lire, je peux lui noter tout ça sur une feuille pour qu'il puisse vérifier sur la liste si jamais il a un doute. À mon retour, 5e étape, je fais le point avec l'enfant. Je lui pose des questions pour savoir comment il se sent. Est-ce qu'il a eu peur tout seul? Est-ce que c'était chouette d'être le roi de l'appart? Est-ce qu'il est OK qu'on recommence une autre fois? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a respecté les règles? Alors après, on félicite si tout s'est bien passé, etc. On encourage et on lui dit qu'on peut lui faire confiance et que ça nous fait plaisir. Mais s'il y a eu des couacs, eh bien on lui explique que ça ne nous donne pas vraiment envie de recommencer, qu'on pense que c'était peut-être trop tôt. Et que la prochaine fois, on le fera garder si jamais on a besoin, mais qu'on retentera l'expérience une autre fois plus tard quand il aura grandi, quand il aura mûri, parce que la confiance, ça doit aussi se construire et qu'il a besoin de comprendre que c'est important qu'on puisse lui faire confiance. Donc on fait le point de manière à avoir vraiment le positif comme le négatif et du coup à s'adapter en fonction de son enfant et aussi de soi-même. Et si ça s'est bien passé, ben on peut augmenter peut-être la régularité et après la durée d'absentéisme, etc. Donc ça, c'est pour faire garder son enfant par lui-même, c'est-à-dire s'il est assez mature, s'il est assez grand. Ensuite, on peut faire garder ses enfants par l'aîné de la fratrie. Si on a plusieurs enfants et que l'aîné est assez mature et responsable pour garder ses petits frères et sœurs, alors on peut se lancer. Attention toutefois, j'émets vraiment des réserves. Premièrement, il ne faut pas prendre l'aîné pour un adulte et trop lui en demander. Un enfant de 11-12 ans peut très bien garder un enfant de... Enfin, peut très bien rester avec son petit frère de 8 ans, par exemple. Mais garder un enfant de 2 ans et un enfant de 5 ans, ça peut être vraiment trop difficile pour lui. Donc, il ne faut pas surcharger l'aîné de la fratrie. Il ne faut pas croire, deuxième point, que parce que l'aîné est capable de s'occuper seul et d'être autonome seul, qu'il est capable de gérer d'autres enfants plus jeunes. Parce que c'est vraiment une lourde responsabilité. Donc l'aîné peut répondre à tous les points que je vous ai énumérés juste avant pour pouvoir se garder seul. Votre aîné, vous pouvez lui faire absolument confiance, par exemple, de rester seul toute une journée dans l'appartement. Il est même capable de faire réchauffer des pâtes, etc. Mais c'est pas parce qu'il est capable de s'assumer seul qu'il va être capable de gérer des plus jeunes. Ça dépend vraiment du caractère et de l'enfant, quoi. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir si ça peut le faire ou si ça ne peut pas faire. Mais du coup, il ne faut pas mettre trop de responsabilités sur l'aîné si vous sentez que ça ne va pas le faire. Troisième point, troisième réserve, parfois les plus jeunes n'acceptent pas l'autorité de l'aîné. Et si c'est le cas, eh ben ça va mal se passer parce qu'il y aura des disputes, parce que les plus jeunes ne vont pas accepter d'être repris si jamais ils font quelque chose qui sort du cadre des règles de sécurité ou autres que vous avez définies. Ça, c'est important. Quoi qu'il en soit, comme pour un enfant qui reste très seul, il faut y aller par paliers, progressivement, en faisant d'abord des petits tests. On voit aussi la capacité de l'aîné à assumer les plus jeunes au quotidien. Par exemple, est-ce qu'il sait comment donner le biberon au plus petit, changer sa couche? Est-ce que l'aîné est capable de jouer avec pour l'occuper, etc. Après, si les enfants sont rapprochés, qu'il n'y a pas de bébé dans le lot, un aîné de 12 ans peut très bien rester seul à la maison avec son frère de 10 ans et sa petite sœur de 8 ans, parce qu'eux-mêmes sont capables de respecter les règles et les consignes proposées précédemment. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous de définir tout ça et de voir et de tester. Troisième possibilité, faire garder son enfant par l'autre parent. Alors, il est question d'un côté d'accepter de laisser la place à l'autre parent et de l'autre, que l'autre parent prenne son rôle et l'assume. Les deux sont super importants. Donc, il est important de se remettre en question d'abord soi avant de remettre en question l'autre. Donc là, je vais vraiment détailler un petit peu les deux cas de figure. Quand on a l'habitude d'être la personne qui s'occupe le plus des enfants, eh bien, on a besoin d'accepter que l'autre parent fasse différemment. Il faut qu'on accepte que ce ne sera pas pareil avec l'autre qu'avec nous et que ce n'est pas grave. C'est parfois difficile de lâcher prise parce que l'enfant, lui, il a des routines et que quand on met des choses en place et que l'autre, il vient tout chambouler, eh ben, ça peut être pénible pour soi, mais ça peut être aussi très déroutant pour l'enfant qui, du coup, va plus trop savoir sur quel pied danser. Donc, l'idée, c'est vraiment de discuter avec l'autre parent ensemble, de faire le point sur ce qui est important de faire pareil pour pas que l'enfant croie que d'un coup un parent est psychorigide ou que l'autre est super cool et qu'il fasse des préférences et qu'après ils mettent en compétition l'un avec l'autre. Oui, mais maman elle accepte que je fasse ça. Oui, mais papa il a dit que, etc. Donc c'est important de faire le point ensemble sur les règles communes, les routines communes, mais c'est aussi important d'accepter que ce qu'on peut juger de très important, nous, l'est pas forcément pour l'autre. Et que parfois, bah, il faut juste lâcher prise. Donc la relation des enfants avec l'autre sera forcément différente que la relation que mon enfant a avec moi-même. L'essentiel, c'est d'avoir confiance en l'autre. Et puis pour le reste, bah, on lâche prise, on se tait, au risque de devenir monsieur ou madame, je sais tout, qui fait mieux que tout le monde. Et puis, on risquerait de se retrouver devant un « puisque c'est comme toi ». Puisque c'est comme ça, pardon, garde-les toi. Comme ça, tu seras sûr que ce sera fait comme il faut, selon tes critères. Voilà. Donc ça, c'est quand on a l'habitude d'être la personne qui s'occupe le plus des enfants. Il faut vraiment qu'on accepte à faire confiance à l'autre et à lâcher prise et à accepter que ça ne sera pas fait comme nous. Maintenant, quand on a l'habitude d'être la personne qui s'occupe le moins des enfants, eh bien, on a besoin d'accepter notre rôle de parent. Et notre rôle de parent, c'est de participer à la vie de famille, de prendre du temps pour être avec les enfants. Et ça peut se faire parfois tous en famille, mais ça peut être aussi en étant seul avec les enfants. Non seulement ça me permet, moi, parent, qui suis plus souvent absent, de mieux connaître mes enfants, de les voir grandir, d'avoir des moments privilégiés avec eux, d'être un parent présent et aimant, mais en plus, ça permet à l'autre parent de faire autre chose, donc d'être plus épanoui. Donc, ça améliore les relations au sein de la famille et au sein du couple. Mais pour ça, bah, je dois admettre que mon temps n'est pas plus précieux que celui de l'autre parent, que ce n'est pas plus naturel pour l'autre parent d'être avec les enfants par rapport à moi, en tout cas H24, et que l'équilibre de la famille, il va dépendre de ma manière à considérer la place et le rôle de chacun dans la famille, et que ma place n'est pas en dehors de la famille. Donc, avec l'autre parent, on peut s'accorder pour que chaque parent ait une fenêtre de liberté dans la semaine pendant laquelle l'autre parent gère les enfants. Ensuite, chacun occupe ce temps pour faire ce qu'il a envie de faire, sans faire des reproches à l'autre, en disant « Ouais, mais c'est nul, pendant que je garde les enfants, toi tu fais ça, mais c'est nul, c'est même pas une raison valable, ça on évite. » Et ensuite de ça, bah, quand nous on fait notre activité et qu'on prend notre temps pour nous, et bah, on accepte que l'autre parent fasse à sa façon pour garder les enfants et que simplement ce soit différent de nous. Donc ça, c'est une stratégie de famille donnant-donnant pour que tout le monde y gagne. Et je vous encourage vraiment à mettre ça au point. Quatrième Solution, les grands-parents. Alors, il est parfois difficile de trouver l'équilibre avec les grands-parents aujourd'hui. On aimerait qu'ils soient présents, on aimerait que ce soit un soutien, mais pas trop non plus, parce qu'on n'a pas envie qu'ils aient non plus trop de réflexion sur notre façon de faire, ni une attitude de « j'ai été père, j'ai été mère avant toi, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça ». Donc voilà, il faut trouver l'équilibre pour pas non plus rentrer dans cette relation où les grands-parents se permettent trop de juger notre façon de faire à nous parents. Mais il faut aussi comprendre qu'eux ont envie de voir leurs petits-enfants grandir, mais pas non plus d'être enchaînés à leurs petits-enfants. Parce que les grands-parents, ils n'ont pas non plus forcément envie de devoir s'occuper de leurs petits-enfants tous les jours à la place de leurs parents, parce qu'ils ont aussi envie de vivre leur vie. Ils ont peut-être été fatigués de s'occuper de leurs propres enfants, et aujourd'hui, ils ont juste envie de savourer, mais pas que ça devienne une contrainte. Alors, comment savoir jusqu'à quel point les grands-parents, c'est-à-dire vos parents et vos beaux-parents, ont envie de prendre du temps avec leurs petits-enfants? Alors, je vais brancher juste mon support de texte, parce que j'ai des notes, et mes notes, elles sont sur la tablette. Et la tablette est quasiment déchargée, donc j'ai pas envie que ça coupe en plein milieu. Voilà. Non, j'ai branché la prise, mais j'ai pas branché à la tablette, ça risque pas de fonctionner. Voilà, donc comment faire? Je disais comment faire, comment savoir jusqu'à quel point les grands-parents ont envie de prendre du temps avec leurs petits-enfants. Bah, la première chose, c'est de leur demander clairement. Par exemple, ma mère m'a toujours dit qu'après avoir élevé 6 enfants, parce qu'on est 6 enfants, donc après avoir élevé 6 enfants, il était hors de question pour elle de s'occuper de ses petits-enfants de manière régulière. Elle ne veut pas avoir quelque chose de régulier parce qu'elle veut pouvoir faire ce qu'elle veut de son emploi du temps, pas être enchaînée en se disant « Ah, toutes les semaines, tel jour, à telle heure, j'ai les petits-enfants. Ah ben, j'aurais aimé partir un week-end avec mon père. Elle aurait aimé partir un week-end avec mon père. Elle aurait aimé participer parce qu'elle est engagée dans plein d'associations et compagnies et elle prépare des spectacles, des trucs. Donc, elle a des répétitions, elle a des réunions d'organisation, etc. » Donc voilà, elle voulait pouvoir être maître de son emploi du temps et elle a toujours été claire. En plus, elle travaille encore, donc elle est engagée dans plein de projets à côté, comme je vous l'ai dit, donc voilà. Mais par contre, elle est super ravie de prendre ses petits-enfants de temps en temps, et elle en profite, parce que c'est pas une contrainte pour elle quand elle les a. Et de l'autre côté, il y a ma belle-mère qui adore garder ses petites filles, elle en a 3, et qui nous demande elle-même quand est-ce qu'elle peut garder Janaï quand ça fait une semaine qu'elle l'a pas eue, tu vois. Elle veut souvent garder Janaï au moins une fois par semaine. Donc, quand il s'est passé plus d'une semaine, ben forcément, elle va demander « Est-ce que je peux la prendre ?» etc. Donc, deux attitudes de grand-mère complètement opposées. Et ça, ben, il n'y a que en leur demandant clairement et en discutant avec que j'ai pu savoir sur quel pied danser et surtout ne rien imposer, mais faire en sorte que ce soit toujours quelque chose d'agréable pour mes parents et pour mes beaux-parents. La deuxième chose, donc la première chose, c'est de leur demander clairement, et la deuxième chose, c'est de respecter leurs critères. On n'a rien à imposer à nos parents ou à nos beaux-parents. S'ils souhaitent nous aider, franchement, c'est chouette, mais pas au détriment de leur vie à eux. Ils n'ont pas à payer les conséquences de nos choix à nous. C'est nous qui avons fait le choix d'avoir des enfants. Ils n'ont pas à devoir garder nos enfants à notre place, H24. Moi, je trouve ça super injuste. Donc, il faut qu'on s'adapte. Parfois, c'est dur parce que parfois, les grands-parents, ils veulent pas du tout s'occuper de leurs petits-enfants ou très rarement. Je sais, ça existe, j'en connais, ils peuvent pas du tout compter sur les grands-parents parce que c'est vraiment quelque chose que les grands-parents n'ont pas envie de faire. Et si on les forçait, non seulement ils ne s'occuperaient pas de leurs petits-enfants avec amour et avec plaisir, donc ce serait vraiment quelque chose de pas cool pour eux, mais du coup, les enfants, ils le ressentiraient et ce serait dégrader le lien qu'il pourrait y avoir entre eux. Donc, le seul moyen de savoir, c'est de discuter avec eux, avec les parents, avec les beaux-parents, et d'accepter leur point de vue simplement. Si leur point de vue ne colle pas avec nos attentes ou avec nos besoins, eh bien, on leur impose rien. On se rabat simplement sur une des autres possibilités. Cinquième solution, une autre possibilité, les oncles et les tantes. Alors, tout comme pour les grands-parents, il n'y a que 2 façons de savoir si les tontons et les tatis ont envie de s'occuper de nos enfants de temps en temps. Déjà, c'est en les observant. Et la deuxième chose, c'est en leur demandant clairement. En les observant, ça passe par, par leur attitude au quotidien. Tu vois, par exemple, un tonton ou une tatie qui est attentionnée, qui veut porter mon bébé, qui lui fait des petits cadeaux, qui passe souvent pour jouer avec, qui aime discuter avec quand mon enfant grandit, ou si mon enfant réclame régulièrement son oncle ou sa tante, ou qu'il est tout heureux quand il ou elle est dans la pièce, dans les parages, ben tout ça, c'est des petits signes qui montrent qu'il y a de l'amour, de l'affection, qu'il y a un lien entre l'enfant et son oncle ou sa tante. Si à l'inverse, il n'y a pas du tout de tendresse, pas de respect ou pas d'intérêt mutuel, ben c'est un signe qu'il n'y a pas de lien particulier. Ça ne veut pas dire que l'oncle ou la tante n'en a rien à faire, attention. Parfois, c'est simplement qu'il peut ou qu'elle peut se sentir maladroit, maladroite, qu'il n'ose pas parce qu'il ne sait pas comment faire. Donc, on passe à la deuxième façon de savoir, qui est de leur demander clairement, comme pour les grands-parents. Et donc là, ben, je vous encourage à discuter avec eux et à respecter leurs critères et à faire exactement comme pour les grands-parents. Sixième option, les amis. Je vous souhaite vraiment d'avoir des amis. Pas des amis à qui on demande toujours, mais des amis sur qui on peut compter et qui peuvent aussi compter sur nous. Donc voici plusieurs amis à qui vous pouvez demander de l'aide occasionnelle ou régulière. Déjà, il y a l'ami d'enfance. C'est l'ami qui sera toujours là pour vous, qui vous aime, qui aime forcément vos enfants. Et si cet ami habite près de chez vous, ben, vous pouvez lui demander de manière régulière. Si cet ami n'habite pas près de chez vous, mais de passage de temps en temps, vous pouvez toujours aussi lui demander un petit service. Et je suis sûre que cet ami sera ravi de jouer le rôle du tonton ou de la tati de remplacement, du parrain, de la marraine, etc. avec votre enfant. Ça, c'est l'ami d'enfance. On a aussi, si on n'a pas l'ami d'enfance à proximité, il y a l'ami qui a des enfants, les amis de l'entourage. Vous avez déjà la certitude que cet ami sait y faire avec les enfants puisqu'il ou qu'elle en a. Donc ça peut être collègue de boulot, mais ça peut être aussi des amis pas forcément super super proches, mais avec qui vous vous voyez de temps en temps et avec qui ça passe bien. Souvent, ça ne pose pas de problème à ces amis d'avoir un ou deux enfants en plus pour quelques heures, surtout si vos enfants sont amis avec leurs enfants. Par contre, ce qui pourrait vraiment être chouette, c'est d'alterner, c'est-à-dire de leur proposer qu'ils gardent vos enfants, et de temps en temps, c'est l'inverse. Comme ça, par exemple, une semaine sur deux, ou alors un jour par semaine, c'est vous qui gardez leurs enfants. Enfin, un jour, une matinée par semaine, vous gardez leurs enfants. Une matinée par semaine, c'est eux qui gardent les vôtres. Vous pouvez, comme ça, leur proposer un échange pour que chacun ait du temps de qualité pour soi. Et ça, c'est possible avec vos amis, vos vrais amis, ceux qui sont vraiment très très poches, mais aussi avec des collègues de travail qui ont des enfants, ou encore avec des voisins, ou les parents d'amis de vos enfants. Justement, les voisins, vous pouvez toujours demander de l'aide aux autres. S'ouvrir aux autres, c'est aussi s'entraider. Et les voisins, c'est une super façon de s'entraider. On peut par exemple aider une voisine âgée à faire ses courses ou sortir ses poubelles. On peut aider un voisin à tondre son gazon. On peut aider une voisine à promener son chien. Un autre à garder ses enfants de temps en temps, etc. Proposez de l'aide à vos voisins. Et vous verrez qu'ils vous proposeront la vôtre. Alors pour ça, il faut être attentif aux autres. Ne pas donner pour recevoir. Même si des fois, si on connaît bien la personne, on peut faire un échange, comme j'ai détaillé juste avant avec un ami ou une amie qui a des enfants, on peut faire un échange. Mais vous pouvez aussi proposer de l'aide, proposer vos services sans rien attendre en retour. Simplement donner en sachant que vous recevrez aussi, parfois vous recevrez de cette personne, mais souvent vous recevrez d'une autre personne dont vous ne vous attendez pas. Et je vous l'ai dit, ça c'est un principe, donner et vous recevrez. Quand on est généreux en temps, en énergie, en aide et financièrement parlant aussi, eh bien, on reçoit aussi. Pas toujours de la façon dont on s'y attend, mais on reçoit aussi. C'est un principe de vie. Donc, donnez, proposez, rendez service, créez des liens avec vos voisins et vous verrez que naturellement, vous pourrez compter sur certains d'entre eux de temps en temps. Septième option, c'est le fait de payer quelqu'un pour garder ses enfants. J'ai discuté l'autre jour avec une de mes anciennes profs de tourisme quand j'étais en BTS. J'avais une super prof, on a gardé contact et de temps en temps, ben, on se revoit. Alors c'est pas très régulier, ça peut être une fois par an. Parfois, il peut se passer 2 ans sans qu'on se voit. De temps en temps, on échange vite fait sur Facebook. Mais voilà, on s'est vu il y a pas longtemps et elle me disait que jusqu'à ce que ses enfants aient respectivement 8 ans et 6 ans, elle passait 80% de son salaire dans une nounou à domicile. Son objectif, c'était de permettre à ses enfants de dormir autant qu'ils le souhaitaient le matin, de faire des siestes quand ils en avaient besoin, d'avoir un rythme qui leur corresponde, de ne pas subir le rythme effréné des parents qui travaillent à l'extérieur, etc. Et j'ai trouvé ça super chouette comme initiative et très courageux, parce que c'est pas souvent qu'on rencontre ça. Donc je sais que certains parents qui ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants mais qui travaillent tous les deux à l'extérieur consacrent aussi un de leurs salaires pour rémunérer une personne qui s'occupe des enfants la journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'accepter l'idée de payer quelqu'un pour avoir du temps pour vous. Ça signifie bien sûr de faire un choix. Quand on choisit, on renonce forcément à autre chose. Et quand on paye quelqu'un quelques heures par semaine, ça signifie renoncer à cet argent qu'on aurait pu mettre dans autre chose. C'est pas du tout un choix à faire à la légère. Mais si on le fait, on est assuré d'avoir de véritables happy hours chaque semaine. Et ça, c'est aussi une manière de ne pas perdre et de ne pas gaspiller ces happy hours bêtement. Parce que si on sait qu'on les paye, elles ont encore plus de valeur. Donc on a encore plus envie de bien les utiliser. Et comme l'objectif, c'est de réussir à avoir une demi-journée pour soi, il ne s'agit pas d'un budget monstrueux, vraiment. Il y a quelques pistes. Il y a par exemple la nounou, donc l'assistante maternelle, qui peut garder les enfants chez elle ou chez vous. La majorité des assistantes maternelles, elles préfèrent bien évidemment les contrats où elles ont beaucoup d'heures par semaine. Parce que ça leur prend des agréments et elles ne vont pas sacrifier un agrément facilement. Si par exemple elle a 3 agréments, l'assistante maternelle, et qu'elle les fasse à 3 parents qui proposent un temps plein et qu'il y a un 4e qui vient proposer juste une demi-journée par semaine, forcément elle va privilégier les temps pleins parce que pour elle c'est beaucoup plus rentable. Donc elles ne vont pas sacrifier un agrément facilement, mais en revanche elles ont la possibilité de combiner les agréments. Par exemple, si une nounou a un agrément pour 3 enfants et qu'il y a un des 3 enfants qui n'est pas gardé le mercredi après-midi parce que les parents ne travaillent pas le mercredi et que du coup ils récupèrent l'enfant le mercredi midi, eh bien votre enfant peut être un 4e enfant qu'elle garde, mais à la place de celui qui n'est pas gardé le mercredi après-midi. Donc elle a bien 3 agréments, elle garde 4 enfants, mais elle n'a toujours que 3 enfants en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Nous, on a fonctionné comme ça pendant 2 ans. Jana a été gardée par une nounou une journée complète pendant un temps, puis après elle a été gardée pour s'adapter à ses agréments à elle qui évoluaient. Elle a été gardée 2 demi-journées. Mais on peut trouver des nounous qui acceptent de combiner comme ça pour boucher des trous. Et vous pouvez trouver ce genre de facilité, surtout si vous êtes à la maison et que vous pouvez vous adapter aux conditions de la nounou. C'est vraiment une solution qui vaut le coup, qui ne coûte pas extrêmement cher, vraiment. Et vous trouverez la liste des assistantes maternelles proches de chez vous pour les contacter, leur proposer ça soit au RAM, le relais assistante maternelle de votre commune, ou alors dans certaines agences qui mettent en lien des assistantes maternelles avec des familles. Donc tapez agence nounou plus le nom de votre ville dans votre moteur de recherche et je suis sûre que vous trouverez forcément. Donc voilà, il y a cette option de nounou. Il y a l'option babysitter. La babysitter, elle viendra toujours chez vous aux horaires que vous souhaitez. Donc l'idéal, c'est de connaître une jeune fille de son entourage, par exemple la fille de voisin, une nièce qui est ado, ou encore la babysitter d'une collègue de travail. Voilà, c'est toujours mieux sur recommandation. Ça revient moins cher qu'une nounou et c'est un vrai complément d'argent de poche pour la babysitter, surtout si c'est régulier. Mais sinon, il y a aussi des agences comme Babychou, B-A-B-Y-C-H-O-U. Il y a plusieurs agences partout en France qui peuvent vous aider à trouver une babysitter ou une nounou aussi, je crois qu'ils font les deux. Mais selon les villes, vous avez aussi des agences locales. Donc voilà, vous pouvez aussi taper babysitter et le nom de votre ville dans votre moteur de recherche. Et puis selon les agences, les babysitters sont notés. Et voilà, comme ça, vous pouvez aussi être plus sécurisé. Et la 3e option, c'est les au pairs. En général, on dit les jeunes filles au pair parce qu'en général, c'est majoritairement des filles au pair. Donc les jeunes filles au pair, c'est des jeunes filles qui habitent normalement à l'étranger. Elles sont étrangères et elles viennent habiter chez vous pour apprendre le français, pour apprendre votre langue. Donc en échange d'être logées, nourries par vous et en échange d'une petite rémunération qui est l'équivalent d'un argent de poche, la jeune fille au pair, elle s'engage à participer à votre quotidien. Donc elle peut garder les enfants, elle peut faire à manger de temps en temps, elle peut s'occuper du linge, elle peut s'occuper aussi du ménage. Enfin voilà, il y a un contrat, un vrai contrat dans lequel sont stipulés non seulement le nombre d'heures qu'elle travaille, mais le montant d'argent de poche que vous lui versez et aussi les cours de langue qu'elle peut suivre. Parce que l'objectif, comme je vous ai dit, c'est d'apprendre votre langue, donc au contact de vos enfants, dans votre famille, mais aussi de voir d'autres personnes. Donc l'idée, c'est aussi de lui ouvrir de l'ouvrir sur la société française, quoi, de lui permettre d'être en contact avec d'autres personnes qui parlent français. Donc il y a des pour et des contre. Les pour, c'est le fait d'avoir une aide régulière, de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Et puis les enfants peuvent apprendre la langue aussi de la jeune fille au pair. Donc si c'est une jeune fille qui parle anglais par exemple, ben c'est super parce que les enfants peuvent aussi apprendre l'anglais avec une personne qui parle couramment la langue. Mais il y a aussi des contres. Et c'est que le fait d'avoir une personne non-stop avec nous, ben parfois il y a une incompatibilité de caractère. Parfois c'est difficile à gérer. Parfois ça se passe mal. Donc voilà, c'est un risque à prendre. Dans tous les cas, il existe des sites comme needaupair.com, needaupair.com ou aupairworld.com, aupairworld.com. Donc c'est des sites qui regroupent et qui vous facilitent les démarches, qui vous expliquent tout. Et normalement, ben, en passant par ces sites, il y a quand même un plus de sécurité parce que les filles au pair sont notées, elles sont recommandées, etc. Après, voilà, ça n'empêche pas qu'il peut toujours y avoir un problème. Hein. Ça, c'est, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Il existe aussi des pages Facebook comme Au Pair France ou même par région. Donc, si vous faites l'instruction à la maison et que vous avez une chambre pour accueillir une au pair, eh ben, c'est vraiment une chouette expérience que vous pouvez tenter, que vous pouvez tester. Voilà, donc ça, c'est pour les trois possibilités de... Quand vous voulez payer quelqu'un pour garder vos enfants, si les autres options ne sont pas idéales pour vous, donc la nounou, l'assistante maternelle, la babysitter et les au pair. Voilà, ça fait un cours très long aujourd'hui. On est déjà à plus de 50 minutes. Donc je vais simplement vous résumer tout ça, votre fiche de route pour ce troisième jour. L'objectif, il est clair. Mettre au moins 4 happy hours d'affilée sur votre compte horaire. Oui, ça remplace le compte bancaire, le compte horaire. Donc, 1, réalisez votre tableau de motivation pour déterminer comment vous allez occuper vos happy hours et avoir un ou plusieurs objectifs très précis. 2, écrivez votre demande précise, comme si vous étiez le roi ou la reine et que toutes vos demandes étaient exaucées. C'est juste pour y voir plus clair et voir noir sur blanc votre objectif. Écrivez, je veux tant d'heures d'affilée, tel jour pour faire telle chose. Il faut vraiment que ce soit clair. 3e chose, faites la liste des personnes à qui vous pourrez demander un service et suivez les étapes que je vous ai données. Ensuite, il vous reste à demander. 4e étape, remplissez votre agenda. Pour chaque demande qui a été acceptée gratuitement, notez les plages horaires où vous prenez rendez-vous avec vous-même pour occuper ces happy hours. Et 5, si besoin, trouvez une personne que vous payerez une fois par semaine, mettez le budget nécessaire de côté et mettez à profit ces happy hours bien mérités. Voilà, c'était encore une journée bien dense et riche en solutions. Je vous invite à trouver celle qui vous convient et à commencer à apprécier à l'avance ces happy hours gagnés. L'objectif, c'est 4 heures d'affilée. Si vous êtes bien entouré, vous pourriez même avoir 6 heures facilement, toute une après-midi par exemple. C'est exactement ce que je suis en train de faire. À l'heure où j'ai écrit le contenu de ce jour 3, Janae est chez mes beaux-parents. J'ai une plage horaire de 13h à 18h pour travailler. Il est déjà presque 15h. Et même si j'ai envie de me faire un film, mon objectif était très clair pour aujourd'hui. Terminer le jour 3 que j'avais commencé la semaine dernière et faire tout le contenu du jour 4. Ce que vous direz et ce que vous écouterez demain. Les paris sont lancés. Est-ce que j'y arriverai? Je vous dirai tout ça demain. Alors, je vous laisse avec une jolie citation pour la route. Elle nous vient tout droit d'Andy Warhol. Je cite... On dit que le temps change les choses, mais en fait, le temps ne fait que passer. Et nous devons changer les choses nous-mêmes. Je vous dis à demain.